Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Vous connaissez bien sûr le roi Charles VII, celui que l'on surnommait le pauvre petit roi de Bourges, ce roi que Jeanne d'Arc fit sacrer à Reims le 17 juillet 1429, après qu'elle eut bouté les Anglois hors de France. Le successeur de ce roi Charles VII sera Louis XI, auquel une sinistre réputation colle à la peau, quoiqu'il fût l'un des plus grands souverains de notre histoire. Eh bien, Charles VII et son fils Louis XI offrent l'exemple le plus édifiant de mésentente père-fils de toute l'histoire de la monarchie française. C'est cette histoire familiale compliquée que je vais vous raconter dans ce nouvel épisode, cette fois-ci en trois parties. Charles VII est fou de colère. Son fils Louis vient de s'en prendre publiquement à sa favorite Agnès Sorel. Il l'a menacée, l'a poursuivie dans sa chambre, l'épée à la main, et l'a giflée. Cette fois, c'en est trop. Dauphin de France ou pas, ce fils insupportable doit être sévèrement puni. Mais au fait, ce fils, qui est-il au juste et pourquoi ses relations avec son père sont-elles aussi mauvaises ? Louis naît le 3 juillet 1423. Quand il est enfant, son père n'est encore que le pauvre petit roi de Bourges qui touche alors le fond de la détresse. Louis passe une enfance solitaire entre les grandes murailles du château de Loches. Il ignore absolument tout de l'amour qui lie généralement un enfant à ses parents. Il trouve un exutoire à ce manque d'affection chez les animaux, chiens, chats, oiseaux, pour lesquels il aura toujours une passion. À 10 ans, il quitte Loches pour Amboise. Dans ces années-là, père et fils ne se voient guère. Pour Charles, son fils est insignifiant. Quant à Louis, il n'éprouve pour l'auteur de ses jours ni affection ni respect. À distance, il est humilié pour ce père qu'il juge faible, qui se laisse guider par des favoris cupides et ne représente plus rien. Dans une terminologie plus contemporaine, on dirait que Louis considère son père comme un loser indigne de sa fonction. Mais voilà qu'en quelques années à peine, tout va changer. Ragaillardi par les victoires de Jeanne d'Arc, légitimé par son sacre à Reims le 17 juillet 1429, Charles, le petit roi falot, effacé, va devenir comme par enchantement Charles VII, dit le victorieux. C'est en 1436, avec le mariage de Louis, que les relations père-fils vont vraiment dégénérer. Depuis l'âge de 5 ans, Louis est fiancé à Marguerite Stuart, de 2 ans sa cadette, fille de Jacques Ier Stuart, roi d'Écosse. En grandissant, Louis s'est mis à détester cette future épouse que lui a imposée son père, puis à s'en désintéresser totalement. Puisque c'est ce père indifférent qu'il a choisi pour lui, elle ne peut pas lui plaire. Les choses vont prendre un tour injurieux au moment du mariage, le 24 juin 1436. Louis a alors 13 ans. Pour l'époque, il n'est donc déjà plus un enfant, mais un jeune homme. Charles va commettre l'erreur psychologique d'organiser ce mariage à l'économie. En temps normal, même pour un petit vicomte, on organisait un vague tournoi. Mais là, rien. Pour son propre fils, futur roi de France, Charles compte ses sous comme un vulgaire boutiquier. Pire encore, il ne se présente à la chapelle que quelques minutes avant la cérémonie et ne s'est même pas changé pour venir. Il est vêtu de l'habit gris qu'il porte pour monter à cheval et a gardé au pied ses bottes crottées et ses éperons. Bref, il donne à son fils le sentiment que ce mariage, qu'il a pourtant lui-même arrangé, est une formalité barbante dont il se serait bien passé et qu'il convient d'expédier le plus rapidement possible entre une partie de chasse et le prochain souper. En cette occasion, qui aurait pu les rapprocher ? Le roi Charles VII ne manifeste ni affection, ni intérêt et ne respecte pas le service minimum qu'un roi doit au dauphin, qu'un père doit à son fils. En vérité, Charles VII était envieux de ce fils trop volontaire, déjà plein de force et d'assurance. Et comme Louis, de son côté, n'était pas du genre à garder sa langue dans sa poche, il ne se priverait pas à l'avenir de dire ce qu'il pensait et d'afficher ouvertement le mépris que lui inspirait son père. Dans un premier temps, le dauphin se comporte en fils obéissant. Peut-être même, à défaut d'affection, éprouve-t-il une certaine reconnaissance envers son père lorsque celui-ci lui confie en 1439 la mission d'aller mater les écorcheurs, ces troupes armées qui ravagent alors le Languedoc. Louis se rend compte rapidement que cette mission est en fait un cadeau empoisonné. Si son père lui a bien conféré le titre ronflant de lieutenant général pour le Languedoc, il ne lui a donné ni soldat, ni argent. Qu'à cela ne tienne, usant d'une volonté et d'une intelligence hors du commun, héritée non de son grand-père fou allié Charles VI, mais de sa brillante grand-mère Yolande d'Aragon, Louis va parvenir à convaincre les villes menacées de payer leur écho, comprenez, de payer leur dû dans la lutte contre les écorcheurs. Sa mission est donc une vraie réussite, dont la nouvelle se répand dans tout le royaume. Aussitôt, Charles VII prend ombrage de ce succès et ordonne à son fils de rentrer sur le champ à la cour. Cette nouvelle humiliation a des conséquences immédiates. Louis va rejoindre sans hésiter la ligue factieuse constituée par des grands seigneurs. Hostiles à la réforme de l'armée engagée par Charles VII et inquiets de voir l'autorité royale se renforcer au détriment de la leur, ils proposent au dauphin de prendre la tête de la rébellion et de placer son père sous sa tutelle. Louis s'engage sans état d'âme dans une révolte que l'histoire retiendra sous le nom de Praguerie, en référence à la révolte à Prague des Hussites, eux aussi des grands seigneurs pour la plupart, au début du XVe siècle. Mais Charles mate cette conspiration sans difficulté, en isole, en écrase, puis en gracie les meneurs, et accorde privilèges et pensions à ceux des nobles qui ont fait preuve, même in extremis, de loyauté à son égard. Va-t-il punir son fils ? Oh, mollement, il se contente de le priver de ressources. D'abord, il démet tous ses serviteurs de leurs fonctions, à l'exception d'un cuisinier et d'un confesseur. Puis, tandis qu'il ne lui verse plus un sou vaillant, il fait don de 2000 livres à sa belle-fille Marguerite, avec laquelle il s'entend à merveille pour qu'elle puisse s'acheter des fourrures et des étoffes. Louis enrage, lui qui en est réduit à emprunter de l'argent aux gens de sa maison. Entre père et fils, la crise va finalement éclater pour de bon, dont la fameuse Agnès Sorel sera l'élément déclencheur. Avec Agnès Sorel, pour la première fois dans l'histoire de France, une maîtresse du roi occupe la place officielle de favorite. Cette liaison adultère affichée au grand jour constitue un scandale ahurissant que nul roi très chrétien n'avait encore assumé. Charles sera le premier. Alors que ses prédécesseurs cachaient leur maîtresse, Charles, lui, va constituer avec Agnès un véritable second ménage à côté du ménage royal. Ils vivront 5 années de bonheur, abritant leurs amours dans de petites demeures bourgeoises ou de petits châteaux comme Razilly, Roberdeau, le château de Loches ou encore Bois-Trousseau près de Bourges. Ainsi donc, comme si Louis n'avait pas essuyé suffisamment de vexations et de rebuffades de la part de son père, voici maintenant que celui-ci s'affiche publiquement à la cour avec la ravissante Agnès. Tout dévoué à sa mère, reine irréprochable, effacée et docile, qui subit en silence l'humiliation d'un scandale jusqu'alors inédit à la cour de France, Louis juge tout bonnement insupportable le spectacle de son père, roucoulant béatement avec une donzelle en âge d'être sa fille, d'autant que celle-ci s'enhardit jusqu'à lui donner des conseils politiques. On imagine sans peine le dauphin rongeant son frein, remâchant sa haine et son mépris envers un père enamouré, totalement inféodé à sa dulcinée, un père trop occupé à jouer les jolis cœurs pour se soucier des enfants nés de son mariage, mais qui aura 4 filles de sa jeune maîtresse, en comptant celle que portait Agnès lorsqu'elle est morte à Jumièges le 14 février 1450, à l'âge de 25 ans. La naissance de toutes ces demi-sœurs doit être dure à avaler pour Louis et ses frères et sœurs, qui découvrent à contre-cœur les joies de la famille médiévale recomposée. Au cours de l'été 1445, Marguerite Stuart, dite aussi Marguerite d'Écosse, meurt à Châlons à l'âge de 20 ans. Débarrassé d'une épouse dont, par chance, il n'avait pas encore eu d'enfant, Louis se retrouve veuf à seulement 22 ans. À la cour, dans une situation difficile pour ses proches et lui-même, Agnès et ses alliés, à commencer par le sénéchal Pierre de Brézé, exerçant sur le roi un pouvoir absolu, le dauphin Louis s'efforce de faire bonne figure. Son père lui est hostile, il le sait, mais il sait surtout que, n'étant pas fils unique, il n'est pas irremplaçable. Il essaie donc de se montrer aimable avec sa belle-mère, qui, rappelons-le, n'a jamais qu'un an de plus que lui. Dans un livre intitulé « Aventurier et favorite », l'historien Philippe Erlanger prétend que Louis aurait été jusqu'à tenter de la séduire et qu'il lui aurait fait dans ce but de splendides présents. Mais la belle l'aurait envoyé sur les roses, faisant de lui son ennemi mortel. On comprend un peu Agnès, hein, car même si Charles VII est un peu âgé pour elle et loin d'être séduisant, Louis XI, pour le coup, est particulièrement laid. C'est du moins ce qu'écrit son proche conseiller, Philippe de Comines.
Il était laid, bavard, disgracié, débile, superstitieux, avait un nez bossué, démesurément long. Ses jambes étaient grêles et déformées, sa démarche embarrassée. Il était nerveux, impatient, et il lui fallait de grands efforts de volonté pour dissimuler le désir et la haine qui le rongeaient.
Cette description de Louis XI devait remonter à l'époque où Comines était encore chroniqueur officiel des ducs de Bourgogne. Passé en 1472 au service de Louis XI, qu'il admirait profondément, il deviendra sans doute un peu plus élogieux à l'égard de son employeur. Ayant échoué dans sa tentative de se concilier les bonnes grâces d'Agnès, Louis se met alors à comploter. Il ourdit toutes sortes de plans, rêve de se débarrasser d'Agnès, de tuer le sénéchal de Brézé, de faire enlever le roi. Il ira même jusqu'à recruter quelques hommes de main. Ces mini-complots n'ont pas de suite, mais l'ambiance se tend en façon tonton flingueur. Entre Charles et son père, l'abcès est mûr et ne va pas tarder à crever. Il existe différentes versions de l'incident qui entraîna le bannissement du dauphin. Pour les uns, Louis, ému aux larmes par sa mère, aurait insulté Agnès Sorel, puis se saisissant de son épée, l'aurait suivi jusque dans sa chambre, prêt à la pourfendre. Pour les autres, il l'aurait seulement souffleté, c'est-à-dire giflé en public. Quoi qu'il en soit, l'événement provoque un joli scandale à la cour. C'est après celui-ci que Louis s'en prend aux chevaux de son père. Il se rend dans les écuries de son papa et il coupe les queues de tous ses chevaux et déclare à qui veut l'entendre qu'il les a écourtés comme son père a été écourté par une donzelle. Puis il affirme qu'il préfère jeter son père la tête devant un puits plutôt que de rester à attendre la succession. Au moins, cela avait le mérite d'être clair. Las d'héberger sous son toit un fils aussi déplaisant et hostile, Charles VII prend la décision non pas de l'expédier dans sa chambre comme on le ferait aujourd'hui d'un ado rebelle, mais de le bannir dans son apanage, c'est-à-dire en Dauphiné, terre qui depuis le traité de Romans de 1349 revient toujours au fils aîné du roi et dont ce dernier tient le beau nom de Dauphin. Au départ, ce bannissement ne devait durer que 4 mois. Le 1er janvier 1447, Louis quitte donc précipitamment la cour, sans dire au revoir à personne, et prend la route du Dauphiné. Il est tête nue. Au moment de franchir le pont, il crie
« Par cette tête qui n'a point de chaperon, je me vengerai de ceux qui m'ont mise hors de ma maison !»
Louis a 23 ans, et il part en réalité pour 14 années d'exil. Il ne reverra jamais son père. Charles, de son côté, sentira désormais peser sur lui le poids de l'impatience et de la haine filiale. Erlanger écrit à ce propos.
Sans que la responsabilité du prince apparût clairement, attentat, trahison, conspiration, mort subite, scandale ne cesseront d'empoisonner l'atmosphère de la cour.
De la minute où il met le pied dans son petit état du Dauphiné, Louis va le diriger comme s'il s'agissait d'un vaste empire. À Grenoble, où il a pris ses quartiers, il crée une cour, un parlement, une université, élève même une armée. Bientôt, L'Europe entière sera informée des merveilles que le fils de France réalise en Dauphiné. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la deuxième partie de mon récit « Au cœur de l'histoire » consacré à Louis XI.